le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Très bon début de journée à vous tous qui nous rejoignez sur France Culture pour ce service protestant. Aujourd'hui, pour le troisième dimanche du temps de carême, nous recevons le pasteur Frédéric Verspeten de l'Église protestante unie de France à Valenciennes, Saint-Amand-les-Eaux, dans le nord de la France. Il nous propose une méditation intitulée « Face à l'absurde, un Dieu de grâce ».
Soyez les bienvenus, vous tous qui nous rejoignez ce matin pour ce temps de culte et de partage. Partage autour de la parole. Merci de votre présence. Merci de nous accueillir. Que ces instants soient pour chacun de nous un temps béni, un temps de méditation, et aussi l'occasion d'offrir à Dieu notre reconnaissance. Je vous propose de prier ensemble. Notre Dieu, c'est ta présence que nous demandons. Non seulement pour cet instant de prière, mais pour toute notre vie. Nous avons besoin d'être convaincus que tu es là, que tu nous accompagnes, que nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nous-mêmes. Donne-nous de porter dans nos cœurs ta lumière et ta chaleur. Donne-nous les forces nécessaires pour notre tâche quotidienne. Dans les difficultés et les épreuves de la vie, apporte-nous ton réconfort. Ce n'est pas seulement auprès de nous, mais auprès de tous les hommes, que nous te demandons d'être présent, que ton évangile rayonne sur cette terre, et que partout ton esprit suscite des ouvriers pour ton royaume. Amen. Dans quelques instants, nous ouvrirons ensemble l'Évangile selon Luc au chapitre 13 et nous lirons les versets 1 à 9. Cette lecture nous est proposée pour le troisième dimanche du temps de carême. Mais avant cela, je vous invite à la prière. Notre Père, nous nous inclinons ce matin devant toi, reconnaissant de ta présence, conscient de nos manquements à l'égard des autres, de toi et de nous-mêmes. Pardonne-nous, notre Dieu, pour toutes les fois où, ne croyant plus qu'en nous-mêmes, nous portons des fardeaux aussi pesants qu'inutiles. Nous voulons pourtant redresser la tête, car tu es celui qui nous accueille comme nous sommes, avec nos doutes, nos erreurs, nos fautes, nos désespoirs, et qui nous offre ton pardon. Sensible à la chaleur de ta présence, prenant conscience de la vérité de ton accueil sans réserve, nous reprenons notre souffle, notre santé morale, notre paix, notre vie. Il est vrai qu'avec toi, nous respirons mieux. Si nous sommes angoissés, ô Dieu, tu fais route avec nous. Tu es notre chemin. Si le fardeau est lourd, ô Dieu, tu le portes avec nous. Tu es notre repos. Sois toi-même notre courage. Renouvelle en nous la vie de tes enfants. Que la grâce de ton amour chasse toutes les illusions passagères de notre monde. Merci parce qu'en Jésus-Christ, tu viens ranimer en nous la flamme de l'espérance, tu viens combler notre vide. Nous vivrons avec toi. Amen. Nous lisons donc ce matin dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13, les versets 1 à 9. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit « Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort ? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez de même. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Le texte que nous découvrons ou redécouvrons aujourd'hui dans l'Évangile de Luc commence par une allusion à 2 faits divers liés à l'actualité de l'époque et qui ont marqué les esprits. Pilate vient de sévir. C'est un acte de répression marqué par la sauvagerie et la brutalité. Les soldats romains ont massacré des fidèles. Peut-être ces fidèles étaient-ils assimilés à des fanatiques. Il l'a fait dans l'enceinte du temple alors qu'ils offraient leur sacrifice à Dieu. Il a mêlé ainsi le sang humain à celui des animaux. C'est inadmissible, incompréhensible, inexcusable, abominable. C'est un sacrilège. Et Jésus enchaîne. Souvenez-vous aussi de l'effondrement de la tour de Siloé. Inattendu, soudain, cette tour qui provoqua par son effondrement la mort de ceux qui étaient à l'intérieur et aux alentours. 18 personnes. Devant les réalités brutales de la vie, que penser, que dire ? Dieu aurait-il voulu cela ? L'aurait-il même provoqué ? Serait-il derrière chaque acte imprévisible qui vient troubler la vie des humains ? S'agit-il d'un cas comme dans l'autre d'un châtiment divin qui sanctionnerait les fautes, les erreurs, les égarements volontaires ou non des humains ? Dieu aurait-il décidé pour eux, sans que personne ne puisse le contester, la peine capitale, l'éradication, la peine de mort ? Lorsqu'un malheur arrive, qu'il soit causé par la méchanceté des hommes ou par un accident de la nature, nous nous interrogeons encore aujourd'hui, nous nous posons les mêmes questions et nous cherchons à identifier les coupables. Si ce n'est Dieu, alors il y a bien parmi les humains quelqu'un qui est responsable. Lorsque les choses tournent mal, nous accusons les autres, et cela semble nous apaiser. Les autres sont forcément responsables, ils ont tort, ils sont à blâmer, dirigeants, système économique, la société, ou bien sûr, les individus malveillants. Il nous est difficile d'accepter que tout n'est pas explicable. Bien des contemporains de Jésus considéraient la souffrance, les catastrophes, comme un châtiment de Dieu. Pourtant, lorsque Jésus évoque les 2 événements, il écarte immédiatement l'idée selon laquelle les drames seraient des châtiments divins. Bien avant lui, le prophète Ézéchiel avait déclaré de la part de Dieu « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Dieu ne fait pas le mal, il ne veut pas le mal, il ne demande à personne, à aucun maître religieux de le faire en son nom et à sa place. Les textes bibliques laissent plutôt entrevoir que Dieu, lorsqu'il agit, le fait pour ouvrir une espérance, une voie nouvelle, là où l'on pouvait croire que tout était fini, bouché, sans espoir. Si Dieu est un être sensible, il a dû être souvent affecté par les attitudes, les images inexactes que nous avons projetées sur lui, au nom de nos peurs, de nos colères et de notre volonté de ne pas aimer notre prochain. Jésus, dans le texte de Luc, nous invite à réfléchir sur la mort de ces malheureux. Il souligne le caractère fragile, précaire, éphémère de la vie humaine et il insiste aussi sur le fait que ses auditeurs et nous-mêmes ne sommes ni pires ni meilleurs que ceux qui furent ainsi enlevés brutalement. Pensez-vous que ces victimes et ces Galiléens étaient plus mauvais que les autres ou que vous, dit Jésus, alors que nous cherchons des coupables, des responsables aux maux qui nous atteignent, Jésus nous invite à réfléchir sur nous-mêmes. Alors que nous n'arrivons pas toujours à nous enlever de l'esprit que Dieu peut et doit être un Dieu qui punit, Jésus propose dans l'évangile de Luc une parabole, une image, une histoire. Le propriétaire d'un figuier était désolé de voir qu'il ne portait pas de fruits depuis 3 ans. Il ordonne à son vigneron de le détruire. Il est devenu inutile. Mais l'ouvrier propose de donner des soins afin de le ranimer, de le fortifier et de le guérir de sa stérilité. Les personnages de la parabole que nous venons de lire dans l'Évangile selon Luc nous livrent en fait 2 images de Dieu. D'abord, celle d'un Dieu qui s'interroge sur sa vigne, comme il peut s'interroger sur son peuple, son Église et sur l'humanité, et celle d'un Dieu qui veut susciter la vie et non la mort. Peut-être Dieu est-il déçu ? N'attendait-il pas davantage de l'humanité, de son peuple, de ses serviteurs, de ceux qui ont entendu l'Évangile dimanche après dimanche, jour après jour, et qui apparemment n'ont pas été modelés, interpellés, transformés, changés. Le Premier Testament évoquait déjà cette idée du Dieu qui s'interroge. Souvenez-vous de Dieu regardant l'humanité, parlant à Noé de construire une arche. Un Dieu qui s'interroge sur ses pensées des hommes qui se tournent toujours vers le mal. Et voilà que le vigneron s'oppose à l'idée du maître. Il résiste. Il ne peut se résigner à détruire. Il invite le maître à changer d'attitude, de regard. Et ici, nous découvrons un autre visage de Dieu. Dans ce personnage se glisse l'œuvre même de Dieu en Jésus-Christ. Dieu ne se résout pas à perdre le monde, mais il se résout à le sauver, à l'arracher au mal, au désespoir, à l'absurde. Alors même que nous doutons de l'avenir, nous découvrons que l'espérance dont parle le message évangélique n'est pas un simple espoir, mais une espérance active, dynamique, dans laquelle Dieu s'engage. Il n'attend pas sur son nuage, en simple observateur. Il se lie, s'engage dans notre histoire. Il le fait, il fait ce qu'il faut pour que cela change. Face aux événements inéluctables et inexplicables pour nous, il s'engage et nous invite à oser, à avancer, à imaginer des choses nouvelles. L'espérance qu'il ouvre devant nous devient chemin de vie, antidote au découragement. Je dirais même qu'elle devient marque de la résurrection, vie nouvelle. Alors que nous pensons qu'il n'y a plus rien à faire, il faut nous convertir, changer de regard, nous engager, nous mettre au travail. Ainsi, nous pensions que Dieu jugerait, condamnerait, mais non. Comme il soigne le figuier, il va essayer avec enthousiasme et sans économie de moyens, de corriger, redresser. Dieu que l'on croit être un maître impitoyable et dur va se révéler être un Dieu de miséricorde et de compassion qui n'a pas dit son dernier mot. Il souhaite que nous comprenions ce qu'il est en vérité. Les chrétiens verront donc en Jésus, le Christ, l'image de ce Dieu qui ne cesse de vouloir le bien de sa création et des humains. Certes, Dieu pourrait être déçu face aux contradictions, aux entêtements, aux égarements des humains, mais il n'est pas celui qui nous guette pour nous châtier, ou qui se rappelle à nous de manière brutale pour nous faire craindre sa colère. Il nous invite, plus simplement, au-delà des chocs, à réfléchir sur la valeur et la fragilité de nos vies et à prendre en compte la réalité de son amour. Si nous parcourons rapidement la vie de Jésus selon les évangiles, nous sommes amenés à remarquer que Dieu se fait proche des humains, de chaque vie en particulier, qu'il ne cesse de redire et de clamer sa miséricorde, son pardon, sa bienveillance. Nous portons souvent sur lui et ses intentions un regard qui n'est pas conforme à celui qu'il pose sur nous. Au travers de la vie de Jésus, nous découvrons un Dieu qui agit contre le mal, un Dieu qui ne cesse de faire alliance avec une humanité dont il connaît pertinemment les limites, les contradictions, les fautes, les erreurs, mais dont il connaît aussi les capacités à rechercher et à accomplir le meilleur. Il croit que l'homme est capable de se repentir, de considérer les choses et d'abandonner les voies du mal, de la destruction. Jésus, dans notre récit, nous invite à ne pas nous laisser écraser par les catastrophes ou les drames, mais à réfléchir sur nous-mêmes et à agir pour que la vie triomphe du mal. Le Dieu de Jésus connaît nos replis, notre stérilité. Et pourtant, il ose faire ce pari insensé de nous faire confiance à nous qui laissons trop souvent nos vies écrasées par l'incompréhensible. Ainsi, il choisit sur cette terre des hommes et femmes fragiles. Il les invite à s'ouvrir aux autres et à changer autant que cela est possible le cours des choses. Dans ce passage, Jésus invite aussi ses auditeurs à la repentance, à changer de regard, d'attitude, de conviction, de manière d'agir. La repentance n'est pas simplement un regret général des fautes passées, sur lesquelles, hélas, on ne peut plus revenir, ou un remords tenaillant et secret, conduisant parfois au désespoir, ou encore un étalage perpétuel des mêmes fautes dans lesquelles on se complaît inconsciemment. La repentance ici, celle à laquelle Jésus appelle, se manifeste extérieurement par une transformation dans le caractère, les attitudes, la mentalité, les jugements, les appréciations. Et cela rend la vie à nouveau possible. C'est un renoncement à une manière de voir erronée et par conséquent l'ouverture à des comportements nouveaux. C'est ce changement-là que Jésus souhaite chez ses auditeurs. Jésus dit non à ceux qui dialoguent avec lui ce jour-là. Il dit non à leur volonté de tout comprendre, de tout expliquer en rejetant la faute sur les autres et en cherchant des boucs émissaires. Et il invite ceux qui l'écoutent à chercher en eux-mêmes ce qui rapproche, ce qui libère et qui rend la vie plus heureuse. Il ne se contente pas de parler, il est l'acteur du renouveau. Il ne se contente pas de parler, il agit. Ces promesses peuvent être notre force, et même si jour après jour, nous n'avons pas en lui une foi débordante, il ne fera pas défaut. Sa force sera au rendez-vous. Que nous soyons calmes, agités, tourmentés, lui nous promet qu'il est à l'œuvre. Il rend l'obscurité plus lumineuse. Même si cela nous paraît difficile à accepter, Dieu pose sur nous un regard favorable. Si nous sommes semblables à une poussière d'étoiles, nous ne sommes pas anonymes aux yeux de Dieu. Nous ne sommes ni un dossier, ni un numéro, ni un cas particulier, mais une personne qu'il accepte comme telle. Dieu nous donne toute son attention. Déjà dans le livre des psaumes, Dieu disait à David « Je vais t'instruire, te montrer le chemin, je vais être ton conseiller, je vais veiller sur toi. » Peut-être cela nous paraît-il inespéré. Mais même dans les moments de crise de nos existences, chômage, maladie, solitude, échec, sensation d'impuissance devant les événements, dans ces moments où l'apparente réussite des autres nous blesse encore davantage, le jardinier prend l'initiative de sauver le figuier. Il va faire ce que nous n'arrivons plus à faire pour ressusciter nos vies. Il va nous donner l'énergie et les forces suffisantes pour combattre notre stérilité. Il s'agit là d'une allusion directe à l'œuvre de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, de la présence spirituelle de Dieu qui agit, qui œuvre patiemment, secrètement. Il est celui qui reconstruit, répare, relève et qui nous donne les forces suffisantes pour combattre. Nous nous sentions faibles et désemparés, croyant que rien ne changerait, et voilà que dans notre faiblesse, nous trouvons la force d'avancer. Dieu œuvre ainsi dans nos vies, sans que nous en soyons toujours conscients. Il tourne nos yeux vers demain, il nous aide à comprendre que nous ne sommes pas réductibles à ce que les autres disent de nous ou à nos échecs. L'œuvre secrète de Dieu consiste à nous redresser, à nous transformer. Bien sûr, cela ne se fait peut-être pas en un clin d'œil, en un instant. Il faut parfois du temps, mais l'œuvre est en marche et n'exige de nous que notre foi, notre confiance en lui, et c'est déjà beaucoup. Sommes-nous prêts à placer notre confiance en Dieu, en celui qui ne se révèle pas comme le Dieu de l'arbitraire, qui punirait de manière aveugle, mais qui agit malgré le mal, avec miséricorde, avec attention et compassion. Acceptons-nous de croire en sa parole et d'essayer d'avancer avec ce qu'elle dit? Pouvons-nous considérer, ne serait-ce qu'un instant, qu'il est le Dieu des voies nouvelles, celui qui ouvre des chemins marqués par l'espérance? Un avenir nous est offert. Bien sûr, il y aura des troubles, des difficultés, mais il nous aidera à traverser les moments les plus difficiles avec son aide, son appui, sa présence. Nous étions peut-être comme les personnages mis en scène dans l'histoire que Jésus raconte, ébahis, écrasés par cette actualité dramatique, et Jésus nous dit que nous sommes au bénéfice de la faveur divine. Dieu a la capacité d'améliorer nos destinées, d'être acteur avec nous dans nos combats. Sa compassion si grande nous conduira peut-être aussi à regarder ceux qui nous mépriseraient ou nous rejetteraient au nom de notre différence, comme des êtres qui ont aussi besoin d'être libérés de leur stérilité. Au lieu de leur en vouloir, nous pouvons aussi les porter devant Dieu, pardonner et laisser Dieu faire son œuvre pour que la grâce agisse dans leur vie. Un adolescent, membre d'un groupe biblique que j'animais autour de ce texte de Luc, de cette parabole du figuier stérile, et à qui je demandais de résumer ce qu'il avait compris de ce texte, répondit. Jésus nous dit ici que finalement la religion qu'il propose est une religion simple. Il suffit de croire aux paroles de Dieu, ne pas se laisser impressionner par ce que nous voyons autour de nous, mais de continuer à avancer en ayant confiance en ses promesses. Et même si la nuit semble gagner, la lumière de Dieu sera toujours plus lumineuse que nos ratés. Finalement, ajoutait-il, le mal ne gagnera pas tant que nous croirons en l'œuvre de Dieu qui nous guide. Parole de jeûne, me direz-vous. Oui, certes, mais parole d'espérance, de foi et d'amour qui peut tout changer, comme la résurrection de Jésus le matin de Pâques viendra bouleverser l'empire de la mort. Je vous invite maintenant à nous unir dans la prière. Notre Père, que ton nom retentisse si fort sur notre terre que nous reconnaissions ta présence parmi nous. Que ton règne d'amour et de joie vienne réchauffer tes enfants pour déloger l'angoisse, la souffrance, le mal. Que ta volonté qui s'est manifestée dans le Christ soit faite aussi à travers nos efforts de justice, de partage et de paix. Donne-nous aujourd'hui notre pain, notre part d'affection, notre part de force pour vivre et répandre la bonne nouvelle. Pardonne-nous nos offenses comme nous essayons aussi de pardonner les offenses de ceux qui nous blessent, nous ignorent ou ne savent pas nous aimer. Ne nous soumets pas à la tentation du refus, de la passivité, de la facilité, de l'évasion, mais délivre-nous du mal qui s'incruste dans le monde, en nous-mêmes. Amen. Je vous invite maintenant, pour terminer ce moment de méditation, à recevoir les paroles d'exhortation et de bénédiction. Dieu est le pèlerin embusqué dans notre aventure humaine. Il est de tous nos voyages. Il est sur nos grandes routes et nos chemins de traverse, sur nos terres ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs. Présent à toutes nos aurores et à tous nos crépuscules, il reste avec nous quand il fait jour et quand il fait nuit. Il nous bénit et nous garde. Il nous donne sa paix qui nous accompagnera tous les jours de notre vie. Que le Dieu d'amour nous permette de mieux nous comprendre et de mieux nous aimer. Que son amour nous conduise, nous soutienne, nous accompagne et nous bénisse. Bonne journée à vous tous.
Ainsi s'achève ce service protestant avec le pasteur Frédéric Verspeten de l'Église protestante unie de France à Valenciennes, Saint-Amand-les-Eaux. Merci à Viviane Noël et à Delphine Baudet pour la réalisation et la prise de son de cette émission, le service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Retrouvez cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Et puis si vous voulez recevoir le texte de cette émission par courrier, c'est possible en écrivant au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Dans un instant à suivre, le journal puis talmudique avec Marc-Alain Wacknin. Je vous retrouve cet après-midi pour la troisième des six conférences du carême protestant en compagnie de Louis Pernaud à partir de 16h. Bonne journée à tous.